Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Et nous continuons cette étude de la semaine par le mercredi 18 février 2009. Et là, il s'agit de l'autorité de la parole orale. Autrefois, quand il y avait peu de documents écrits et que la plupart des gens ne savaient pas lire, la transmission orale était très importante. Comment les gens réagissent-ils à la parole orale de Dieu? Eh bien, nous allons encore vous proposer quelques textes. Jérémie, chapitre 38, les versets 2 à 4. Voici ce que déclare le Seigneur. Quiconque restera dans cette ville mourra des suites de la guerre, de la famine ou de la peste. Mais quiconque sortira pour se rendre aux Babyloniens y gagnera la vie sauve. Jérémie disait aussi, « Voici ce que le Seigneur déclare. Il est décidé à livrer cette ville à l'armée du roi de Babylone, et celui-ci s'en emparera. Après l'avoir entendu, ses officiers dirent au roi Sédécias, « Nous réclamons la peine de mort contre ce Jérémie, car ce qu'il dit démoralise complètement les soldats et la population qui restent dans la ville. » Au lieu de chercher à améliorer la situation du peuple, cet individu cherche plutôt à l'aggraver. Nous continuons avec un texte tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 11. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. » Alors Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. » Nous continuons avec le chapitre 6 de l'Évangile de Jean, versets 51 et 52. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. » Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» demandait-il. Nous continuons avec le verset 66 de ce même chapitre 6. « Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. » La parole de Dieu, qu'elle soit annoncée oralement ou qu'elle soit écrite, a une double fonction. Paul dit qu'elle ressemble à une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et qu'elle juge des sentiments et des pensées du cœur. D'après ce contexte, quand Paul évoque ici la parole, il fait référence au message qui était prêché à la fois à l'ancien Israël et aux chrétiens. Quand la parole de Dieu est prêchée, elle agit comme le scalpel du chirurgien. Elle pénètre soit pour guérir et restaurer, soit pour révéler la présence d'une maladie mortelle qui entraînera une perdition éternelle. Mais si elle n'est pas reçue avec foi par celui qui l'écoute, elle ne lui sert à rien. Même si tous les membres n'étaient pas prêts à accepter l'autorité prophétique d'Ellen White, L'Église, dans son ensemble, écoutait ses conseils et en tirait des bienfaits. L'exemple suivant illustre ce fait. L'organisation de l'Église entre 1863 et 1909 était restée pratiquement inchangée. Alors que l'œuvre se développait dans différents domaines, plusieurs associations, missions médicales, études de la Bible, le sabbat, liberté religieuse, sociétés de diffusion, etc., s'étaient donc formées pour promouvoir les divers ministères. Il s'agissait d'associations autonomes, représentées par des groupes indépendants de l'organisation de la Conférence Générale et qui entraient parfois en compétition les unes avec les autres. Par ailleurs, toutes les décisions importantes concernant l'œuvre mondiale étaient prises par un petit nombre de membres de la Conférence Générale située à Battle Creek. La veille de la session de la Conférence Générale de 1901, Ellen White a rencontré les dirigeants, les pressant d'entreprendre des changements radicaux dans le fonctionnement de l'Église. Contrairement à l'habitude, un vaste comité d'environ 75 personnes s'est donc réuni le lendemain, dès le début de la session, pour réorganiser la structure de l'Église. Le comité de la Conférence Générale s'en est trouvé considérablement élargi, et les diverses associations sont devenues des départements de la Conférence Générale. Des unions et des fédérations ont été créées pour permettre aux dirigeants sur le terrain de prendre des décisions sans avoir à attendre l'accord de Battle Creek. Cette réorganisation de l'Église, inspirée par Dieu, a été acceptée à l'unanimité et a depuis bien résisté au temps. Mis à part quelques modifications et certains agrandissements, la structure de l'Église adventiste du septième jour est restée la même jusqu'à aujourd'hui.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.